Vous écoutez, on lit pour vous.
Maladie de Charcot. Nous mourrons tous un jour, alors vivons chaque instant. Propos recueillis par Emmanuel Olivry, paru le 21 juin 2025 dans Ombres et Lumières. Le 21 juin a lieu la Journée mondiale de la sclérose latérale amyotrophique, SLA, aussi connue sous le nom de maladie de Charcot. L'occasion pour Ombres et Lumières de revenir sur le témoignage de Gwenaëlle Godin, 53 ans, qui a vu sa relation radicalement bouleversée avec sa femme Aude, atteinte de la maladie de Charcot depuis 2013. Ce directeur d'hôpital en Bretagne raconte la vie qui est à l'œuvre au cœur d'un quotidien rythmé par la maladie une dizaine d'années après les premiers symptômes. Sa voix est devenue de plus en plus grave. Je me souviens qu'Aude ne pouvait plus chanter de comptines à notre dernière, alors âgée de 5 ans. Qui pouvait se douter que cela amorçait de tels bouleversements pour notre famille? Quand le diagnostic tombe en août 2013, je sais que cette maladie neurodégénérative incurable comporte une issue fatale, potentiellement très rapide. Mais Aude, âgée de 54 ans, déjoue tous les pronostics. 10 ans après le choc de l'annonce, les muscles de ses jambes ne la soutiennent plus. Elle ne peut plus porter la cuillère à sa bouche, mais elle peut encore s'alimenter presque normalement. Elle tient debout grâce à un verticalisateur pour le lever et le coucher, gère le planning des équipes de soignants, commande les courses et travaille même sur un projet de livre, grâce à une tablette iPad à commande oculaire. Au début, les gestes quotidiens deviennent plus difficiles, comme tourner la clé dans la serrure, lever le bras, monter les marches. Je donne un coup de main, nos 3 enfants aussi. Fin 2015, après plusieurs chutes, le fauteuil roulant s'impose, ainsi qu'une aide à domicile pour la toilette. Comment, dès lors, trouver ma juste place? Père, mari, aide-soignant? On vous assigne très vite la fonction d'aidant, quand votre conjoint tombe malade. Je n'aime pas ce mot. Je suis d'abord un mari et veux chérir ce rôle. Aujourd'hui, participer à certains soins me met très mal à l'aise. Ça me semble incompatible avec le regard d'époux que je veux porter sur ma femme. Jusqu'en 2023, nous partageons le même lit, médicalisé. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, mais nous dormons dans la même chambre. Le matin, je suis le premier à lui dire bonjour, même si le binôme d'aide arrive dès 8 heures pour la lever. J'arrive encore à la comprendre, malgré une articulation de plus en plus difficile. Nous prenons du temps pour préparer les vacances d'été, le parcours sup de notre second, la perspective d'une fête ou d'un anniversaire. La journée, on s'envoie des messages WhatsApp. Le week-end, on se raconte notre semaine. Notre organisation ne signifie pas que je laisse les autres tout faire. Par exemple, je gère les réunions parents-profs. Nos 2 derniers sont lycéens. Certains rendez-vous médicaux des enfants, les questions administratives. Le dimanche, je donne à Aude son déjeuner. Le soir, je remplace un soignant si besoin. Mais je souhaite me préserver, découvrant mes limites au fil des années. Je reconnais bien humblement ne pas savoir accomplir plusieurs tâches à la fois. Je manque de patience et j'ai du mal à exprimer colère, tristesse ou découragement. Début 2023 et 2024, j'ai été en arrêt de travail, alors que cela ne m'était jamais arrivé. Je dois tenir compte de ces signaux. Il ne faut pas un 2e malade à la maison. J'essaie alors de prendre régulièrement quelques jours off. J'aime aller dans notre maison du Finistère, à 2 heures de route de Rennes, où nous vivons. Nous avons pu aménager des surfaces pour Aude et, dès que possible, nous allons respirer dans cette oasis. Il y a quelques jours encore, lors du pont de l'Ascension, nous y sommes allés, avons reçu des amis au déjeuner, nous sommes promenés près de la mer. Nous goûtons ces moments simples et joyeux. Le projet de loi sur l'euthanasie me plonge dans une grande inquiétude. Elle semble suggérer que la vie d'Aude ne vaut pas la peine. Trop de souffrance? Trop cher pour la société? Je contemple le sourire de ma femme qui, à sa façon, réconforte tant de personnes venues la voir. Je l'admire. Je regarde ce que je deviens par elle. Toutes ces années à ses côtés font de moi un autre homme. Mes priorités ont changé. Aude me ramène à l'essentiel. Nous mourrons tous un jour. Alors vivons chaque instant, aujourd'hui, sans projeter nos peurs sur l'avenir. Notre situation est parfois lourde, insupportable, mais la vie est encore là. C'était « Maladie de Charcot ». Nous mourrons tous un jour, alors vivons chaque instant. Propos recueillis par Emmanuel Olivry, paru le 21 juin 2025 dans Ombres et Lumières.
Une carte révèle les zones à risque face aux jeux de hasard et d'argent. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 30 mai 2025 dans Le Devoir. Une carte interactive du Québec, mise en ligne, montre les endroits où la population est à la fois la plus exposée et la plus vulnérable aux jeux de hasard et d'argent. Les chercheurs qui l'ont développée espèrent que cet outil guidera les villes dans leur décision d'implanter ou non un nouveau casino ou une salle de jeu dans leur quartier, par exemple. Au Québec, environ 1,4 million de personnes vivent dans des lieux où les risques liés au jeu sont particulièrement élevés, souligne Éric Robitaille, professeur adjoint de clinique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Il est co-auteur d'une étude publiée à l'automne 2024 sur le sujet. M. Robitaille a développé cette carte avec des collègues sous la direction d'Élisabeth Papineau, conseillère scientifique spécialisée à l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. Les zones qui y apparaissent en rouge sont celles où l'exposition et la vulnérabilité sont toutes deux élevées. L'indice d'exposition au jeu tient compte de l'accessibilité et du nombre d'établissements comme les casinos ou les salles de bingo, ainsi que de la dangerosité des jeux offerts. Les jeux de loterie vidéo, par exemple, permettent de miser rapidement et souvent. On peut perdre beaucoup d'argent, soulève le professeur. L'indice de vulnérabilité des populations aux jeux repose sur des facteurs sociodémographiques, comme le fait de vivre seul, d'être un homme ou d'avoir des revenus peu élevés, explique Éric Robitaille. Les régions où l'on trouve le plus de zones rouges sont la Mauricie, centre du Québec, l'Abitibi-Témiscamingue, l'Outaouais, la Côte-Nord et la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Pour mieux prévenir, en créant cette carte, M. Robitaille et ses collègues voulaient aider les communautés à identifier les endroits à éviter pour implanter des établissements de jeux et de hasard. Un outil qui pourrait être particulièrement utile dans le contexte où l'Auto-Québec souhaite ouvrir prochainement plusieurs nouveaux mini-casinos au Québec, souligne Éric Robitaille. De son côté, l'Auto-Québec rappelle que sa stratégie consiste à regrouper les appareils de jeu dans un nombre réduit d'établissements pour en limiter l'accessibilité physique. Les indices de vulnérabilité et d'exposition font partie des facteurs pris en considération pour déterminer les emplacements de nos établissements, indique le porte-parole de la Société d'État, Renaud Dugas. La carte interactive pourrait aussi être utile pour mieux cibler les efforts de prévention, souligne Anne-Élisabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe, un centre de traitement des dépendances à Montréal. Nous allons souvent en milieu scolaire. Alors, c'est certain qu'on va essayer d'aller davantage dans les écoles en zone rouge, dit-elle. Trop accessible. Kevin, 36 ans, vit en Abitibi-Témiscamingue, une région où les risques liés aux jeux sont élevés. Les jeux de hasard et d'argent ont fait partie de sa vie depuis qu'il est tout jeune, confie-t-il. Je jouais aux cartes, par exemple, avec ma famille. Plus tard, ça a été les machines à sous dans les bars et quelques visites au casino, relate-t-il. À partir de l'âge de 25 ans, Il s'est aussi mis à jouer en ligne. À un moment donné, ça allait plus ou moins bien. Puis je trouvais mon confort dans le jeu. Ça me permettait vraiment de m'évader. Il s'est toutefois mis à jouer une partie trop importante de son budget, raconte-t-il. J'étais serré financièrement pendant de longues périodes. Il a alors décidé de contacter la maison Jean Lapointe pour avoir de l'aide. Je ne joue plus depuis un an et demi. Mais encore récemment, il a fallu que je me parle pour ne pas recommencer. C'est toujours un problème, dit-il. Aux yeux de Kevin, les jeux de hasard et d'argent sont trop accessibles, autant physiquement qu'en ligne. Avec un téléphone intelligent, tu peux jouer à partir de n'importe où. Le professeur Éric Robitaille reconnaît que l'une des limites de la carte géographique est qu'elle ne peut répertorier que les endroits physiques et qu'elle délaisse donc le jeu en ligne, qui prend de plus en plus d'importance. Je crois tout de même que notre outil demeure pertinent, car il permet d'aider les villes avec leur urbanisme afin de protéger les populations vulnérables. C'était « Une carte révèle les zones à risque face aux jeux de hasard et d'argent », un texte de Florence Morin-Martel paru le 30 mai 2025 dans Le Devoir.
Ce que je sais de toi, mon Québec, un texte de Orlando Seyd, paru le 23 juin 2025 dans Le Devoir. Je vis dans une colocation soigneusement mal arrangée, haut plafond, mur blanc, cuisine épurée, bibliothèque anarchique et réactionnaire. Nous sommes deux, un chef cuisinier qui me concocte des plats après ses nuits passées à inventer des personnages, et moi, un nostalgique des luttes collectives, lecteur compulsif de Michel Houellebecq. Houellebecq, ce misanthrope grinçant, qualifié de réactionnaire malgré lui, lucide malgré tout. Il dit ce que d'autres taisent. Sous les idéaux modernes, il y a souvent un vide. L'individu est plus seul que libre et misérable sexuellement. Les sociétés ouvertes étouffent parfois les voix critiques, surtout les plus douces. C'est dans cet esprit que je me suis plongée dans « Ce que je sais de toi » d'Éric Chacour pour manifester mon amour pour le Québec. Dans la première partie du roman, le narrateur s'adresse à un toi aimé, idéalisé, mais interdit. L'interdit est sexuel, affectif et social. Il devient symbole, un amour impossible comme métaphore du mensonge social. Pour moi, ce toi, c'est le Québec, celui que mes proches ont idéalisé depuis Haïti. Le Québec francophone, avec un accent épique, un Québec nordique et glacial, mariné dans des corps ensoleillés et assoiffés de la mer caribéenne. Comme dans le roman, le toi se fissure. L'amour inconditionnel qu'on lui porte n'est pas toujours rendu. Ce Québec accueille toutes les misères du monde qui pourraient devenir, pour reprendre les mots de Dany Laferrière, une variété de richesses. Nos couleurs, tant qu'elles ne ternissent pas l'image d'une indépendance recherchée. J'aime beaucoup mon Québec. Je me demande parfois s'il veut m'aimer ou simplement me cocher dans une grille EDI, équité, diversité et inclusion. Dans la deuxième partie du roman, Chacour déplace le regard vers un moi. Le narrateur tente de se comprendre, expose ses contradictions et révèle ce qu'il cache. Il parle comme René Lévesque, mais agit comme Pierre-Éliott Trudeau. Moi aussi, j'ai souvent dissimulé mes contradictions. Je suis un bon gazon, comme dirait Fabrice Ville. Mais je déteste parler créole en public. Je préfère la tourtière au griot. Je suis noire, mais je vais plus souvent au bar qu'à la bibliothèque. Je suis sociologue, mais je joue parfois à ne pas trop théoriser pour rester accessible. Je suis critique, mais je sais qu'on préfère les bons gazons qui sourient même quand ça ne va pas. Dans mon appartement, entre extension du domaine de la lutte d'un Welbeck écorné et tout ce qu'on ne dira pas, mon go d'un Dany Laferrière subtil, je réfléchis à cette identité multiple, instable et non meurtrière que je performe dans un confort rempli de rêves abandonnés. Bohème, oui, mais libre? Peut-être, car l'hiver est toujours derrière la porte. J'ai vécu déjà quelques années en colocation. Ce fut un stage affectif dans l'altérité, un apprentissage dur de la cohabitation. Apprendre à ne pas occuper le centre, à observer sans coloniser, à aimer dans ce qu'il y a de plus libre et exigeant. J'y ai appris à me taire, à me redéfinir dans la contradiction. Dans le dernier volet du roman, Chacour évoque un « nous » tissé de deuil, d'illusions et de compromis. Un « nous » qui fait rêver une adolescente qui attend impatiemment l'arrivée d'un automne coloré pour aller cueillir des pommes dans les Laurentides. Dans notre Québec, mon deuxième pays, pardon, ma province, que vaut ce « nous » dans les yeux de cette adolescente? Mon Québec, admirable dans son agentivité, chérit l'idée de nation et tolère les figures symboliques. Le restaurateur syrien, le joueur haïtiano-québécois de la NBA, mais se méfie des voix qui veulent écrire une nouvelle page du roman national. Mon Québec aime les bons gazons. Tant qu'il ne pose pas trop de questions sur l'histoire de la bataille des plaines d'Abraham. Je rêve d'un nous québécois à la manière de Gabriel Roy, un nous, comme dans Bonheur d'occasion, qui écoute les voix modestes et les existences cabossées où l'espoir naît au cœur de la pauvreté et de la grisaille, un nous qui ne fuit ni la complexité ni le doute, mais qui les accueille avec cette lucidité tendre que Gabriel Roy déploie dans La détresse et l'enchantement. Un nous québécois qui cherche à aimer malgré les silences, à comprendre malgré les blessures et à se reconstruire malgré les défaites d'un oui face à un non. Un nous capable de reconnaître que la beauté d'un peuple réside dans la manière dont il traite ses marginaux et ceux qui l'interpellent avec douceur. Je rêve d'un nous québécois où je pourrais être pleinement moi-même, haïtien, québécois, montréalais, new-yorkais, chicoutimien, croyant, laïque, sceptique et surtout sensible à la beauté d'une phrase de Victor Lévy-Beaulieu, d'Hubert Aquin, de Nelly Arcan, d'Émile Néligan, de Martine Delvaux, de Michel Tremblay, de Jacques S. Alexis, de Kev Lambert. Mon Québec, ce que je sais de toi, n'est pas une vérité figée dans le temps. C'est une tension, un mouvement, une promesse inachevée, un amour entaché de silence. Tu m'as formé, nourri et logé. Tu m'as permis de découvrir des corps et de devenir ce que je suis en train de devenir. Mais tu hésites encore à m'intégrer pleinement dans ton « nous ». Tu accueilles mes talents, mais tu redoutes mes critiques. Tu m'ouvres des portes, mais tu refermes certaines fenêtres avec un beau sourire cryptique et difficile à décrypter. Comme Chacour, je crois encore aux récits intimes et imaginaires capables de fissurer les grands silences. Comme Welbeck, Je n'ai pas peur de la désillusion. Elle est souvent le point de départ de la lucidité. Mon Québec, notre chez-nous, je t'écris depuis ma colocation feutrée, entre deux cafés équitables et trois séances de bricolage de mots, pour te dire que je t'aime. Je veux plus que des symboles. Je veux des espaces d'équité et une mémoire partagée. Tu as tout pour devenir un vrai nous. Reste à voir si tu sauras l'oser. On n'est pas né pour un petit pain. Nous sommes chez nous. C'était ce que je sais de toi, mon Québec, un texte de Orlando Seydé, paru le 23 juin 2025 dans Le Devoir.
Trump, dévastateur pour la santé reproductive dans le monde, dit une responsable de l'ONU. Un texte d'Amélie Botelier-Depois de l'agence France Presse, paru le 10 juin 2025 dans Le Devoir. Le Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP, fait sporadiquement face à des coupes budgétaires des États-Unis, mais cette fois, l'impact des politiques de Donald Trump est encore plus dévastateur pour la santé reproductive dans le monde, s'inquiète sa chef, Natalia Kanem, dans un entretien à l'AFP. Depuis l'adoption en 1985 par le Congrès américain de l'amendement Kemp-Casten, tous les gouvernements républicains ont coupé leur financement du FNUAP, l'accusant de favoriser avortement et stérilisation forcée en Chine, accusation rejetée par l'agence onusienne spécialisée dans la santé sexuelle et reproductive. Le deuxième gouvernement Trump ne fait pas exception. Plus de 330 millions de dollars de projets ont été bloqués du jour au lendemain, si on peut dire, notamment dans certaines parties du monde les plus difficiles, comme l'Afghanistan, explique le Dr. Kanem dans cet entretien à l'occasion de la publication du rapport annuel du FNUAP. Alors oui, nous souffrons. Par exemple, dans le camp de réfugiés syriens de Za'atari, en Jordanie, pendant des années, des sages-femmes héroïques ont aidé quelque 18 000 femmes enceintes sans une seule mère morte lors de l'accouchement, ce qui est exceptionnel dans une situation de crise, raconte-t-elle. Mais ces maternités ont fermé et à cause des coupes financières, ces sages-femmes ne peuvent plus faire leur travail. Si le FNUAP ne peut encore estimer quels seront les impacts précis des coupes américaines, elles se traduiront, sans aucun doute, par notamment plus de mortalité maternelle et plus de grossesses non désirées. Mais ce qui est différent cette fois, c'est que notre écosystème inclut d'autres acteurs en santé reproductive qui auraient pu nous remplacer, mais qui, eux aussi, sont sous le choc des impacts immenses liés à leur financement refusé. Le gouvernement de Donald Trump a, en effet, sabré massivement dans les programmes d'aide extérieure. Ce qui est déplorable, c'est que cette année est, pour moi, considérablement pire qu'avant, précisément parce que tout le monde est pris dans le tourbillon, insiste Natalia Kanem. Le retrait des États-Unis du financement du secteur de la santé reproductive est dévastateur. Désir et droit. Une politique américaine qui passe par des baisses de financement mais aussi par une remise en cause des questions d'égalité de genre. Bien sûr, il y aura toujours des débats sur les mots, les concepts utilisés, mais il ne devrait y avoir aucun débat sur le fait que les droits et les choix des femmes et des adolescentes ne sont pas négociables, insiste la patronne de l'agence onusienne. Nous ne devons jamais faire de compromis sur nos valeurs communes qui font la différence entre la vie et la mort de femmes et de filles à travers le monde. Les femmes méritent d'être soutenues. Les adolescentes méritent de finir l'école et de ne pas se retrouver enceintes ou d'être troquées ou mariées par leur famille, martèle-t-elle. Le rapport annuel de l'organisation, publié mardi, se fondant sur les résultats d'un sondage YouGov auprès de 14 000 personnes dans 14 pays, représentant plus d'un tiers de la population mondiale, s'inquiète d'autre part que des millions de personnes à travers le monde ne puissent créer la famille qu'ils désirent. Ainsi, plus de 40 % des plus de 50 ans ont indiqué n'avoir pas eu le nombre d'enfants qu'ils souhaitaient, 31 % moins que souhaité, 12 % plus. Plus de la moitié des personnes interrogées expliquent que des barrières économiques les ont empêchés d'avoir plus d'enfants. Et à l'inverse, une personne sur cinq dit avoir subi des pressions pour avoir un enfant. Un adulte sur trois rapporte une grossesse non désirée. Avec plus de 8 milliards d'humains, mais de plus en plus de pays sous le seuil de reproduction de la population, les questions démographiques entraînent parfois des positions radicales, note Natalia Kanem. Certains pensent qu'il y a trop de gens. D'autres disent que les femmes devraient faire plus de bébés. Mais pour elles, le plus important, ce sont les véritables désirs, les droits et les choix des femmes. Des choix qui doivent être accompagnés par les politiques publiques. C'était « Trump dévastateur pour la santé reproductive dans le monde », dit une responsable de l'ONU. Un texte d'Amélie Botelier-Depoix de l'agence France-Presse, paru le 10 juin 2025 dans Le Devoir.